C'est la radio Air Environnement, la radio de l'éducation à l'environnement. Vous écoutez le podcast
Your Voice, la voix des experts avec Claire Guillet.
Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc Claire Guillet, fondatrice de Carillon, qui répond aux besoins de l'indépendance alimentaire en France. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ?
Alors, la souveraineté et la résilience alimentaire, ça signifie permettre à chaque territoire de répondre aux besoins d'alimentation, de consommation de ses citoyens, tout en permettant à ceux qui produisent cette alimentation d'être rémunérés correctement.
Vous parlez donc des agriculteurs ?
Exactement, les agriculteurs, mais aussi les industriels de proximité, qui est un tissu en fait assez dense en France, puisque ça représente 90% de notre tissu industriel agroalimentaire.
Que fait exactement Carillon Food, justement, dans cette relation ?
Notre métier principal, c'est l'échange de données, je précise. On organise des échanges de données au sein des filières alimentaires, ce qui permet en fait donc de collecter de la donnée, de la standardiser et de la diffuser. Et aujourd'hui, on la diffuse auprès de deux cibles. La première, ce sont les consommateurs. Donc, on permet notamment donc à ces PME, TPE agroalimentaires d'apposer des QR codes sur les étiquettes des produits, ce qui permet aux consommateurs d'avoir une totale transparence sur l'histoire et la fabrication du produit. Et puis, on a un autre moyen de diffusion de ces données qui est directement auprès de nos clients TPE-PME, où on leur permet d'avoir de la visibilité sur ce qui se passe avec leurs produits en magasin auprès des distributeurs. Donc, c'est une visibilité sur les données sell-out de nos clients.
Vous parlez d'une transparence. En quoi consiste cette transparence ?
Aujourd'hui, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la donnée alimentaire est essentiellement privée. Donc, elle est très peu partagée entre toutes les parties prenantes. Donc, nous, en organisant et en motivant ces échanges de données, on permet déjà à une filière d'être optimisée et de communiquer entre les parties prenantes. Ensuite, au niveau de la transparence et notamment des consommateurs, on permet notamment sur la filière des produits carnés d'avoir vraiment toute la visibilité sur qui a fabriqué le produit, qui est à l'origine des matières premières, comment les animaux ont été élevés, est-ce qu'il y a eu des actions en termes environnementaux ou bien-être animal, qui permettent en fait de mettre en valeur des initiatives et des engagements pris par les parties prenantes auprès des consommateurs.
Là, c'est la transparence liée justement aux consommateurs. Mais vous venez d'évoquer une certaine visibilité avec les industriels concernant justement cette autre transparence liée à la traçabilité. Comment aujourd'hui vous travaillez justement sur cette traçabilité avec les industriels ?
Donc, il y a deux axes. Donc, il y a déjà la traçabilité, c'est-à-dire que nous, on suit le produit tout au long de son cycle de vie de fabrication. Oui. Donc, on est connecté en fait à des outils, des ERP industriels, où chaque lot est suivi et ça nous permet en fait d'assurer qu'il n'y a pas de trou dans la traçabilité du produit et de consolider toutes ces informations et de reconstituer une histoire à destination du consommateur. Mais on permet aussi à ces industriels qui aujourd'hui n'ont quasiment aucune visibilité sur ce qu'il advient de leurs produits une fois qu'ils l'ont vendu notamment à une centrale de distribution, d'avoir toute la transparence sur ce qui se passe au niveau de leurs produits en magasin, l'évolution des ventes. Et donc, ça leur permet aussi d'être plus dans l'anticipation, d'animer aussi la vente de leurs produits au niveau du point de vente et d'optimiser en fait les dépenses qu'ils peuvent avoir en termes d'opérations marketing et promotionnelles le mieux possible. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ce type d'outils existe pour les grands groupes industriels.
D'accord.
Mais il n'y a aucune offre adaptée aux TPE-PME industrielles. Donc, on souhaite vraiment leur donner les mêmes outils et les mêmes armes qu'un grand groupe agroalimentaire.
Donc, si j'ai bien compris, cette offre donc ciblée pour les TPE et PME, les petites, très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises, et donc une initiative de Carillon Food qui est née parce que finalement, il n'y avait pas ce type d'accompagnement pour ces entreprises. Comment vous est venue cette idée d'aller justement vers ces petites entreprises et moyennes entreprises ? Comment exactement ?
Alors,
est-ce qu'il y a une approche venant des entreprises ou c'est vous parce que quel est réellement en fait le... C'est assez particulier parce que vous avez quand même deux volets, l'un pour les consommateurs, l'un pour les industriels. Vous êtes quelque part assez spécialisé. Comment on vous a abordé ?
Alors, en fait, moi, l'idée de Carillon, elle a déjà émergé d'une motivation personnelle à accélérer cette transition alimentaire et à valoriser le travail des producteurs. Au départ, donc, j'ai discuté avec énormément d'agriculteurs et de transformateurs de proximité. Mmh. Et effectivement, ce besoin de reprendre la communication, de reprendre la main sur la communication du produit a émergé. Donc, on a d'abord développé cet outil de traçabilité à destination des consommateurs. Et en fait, en travaillant avec nos clients, en déployant des projets, on s'est aperçu que finalement, leur problématique première n'était pas forcément d'embarquer les consommateurs dans leur histoire, mais déjà d'embarquer les distributeurs et de permettre à ces produits d'être présents en rayon et d'être disponibles pour les consommateurs. Ce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, ce tissu industriel, donc qui représente 90% du tissu industriel, ne représente que 2% des produits qu'on consomme. Le potentiel de croissance de ces entreprises est très important et donc notre objectif premier, c'est déjà de permettre à ces produits locaux et régionaux de s'imposer sur le marché, de prendre des parts de marché et d'être disponibles pour les consommateurs.
Je vois. Tenez compte de la situation environnementale actuelle, le problème de sécheresse. Comment s'intègrent justement ces questions climatiques ?
Les questions climatiques, donc sur la partie valorisation du travail des producteurs, donc nous, en fait, on a tout un angle où on les interroge sur leurs actions vis-à-vis de l'environnement, donc préservation de l'eau, tout ce qui est autour des méthaniseurs, etc. Donc, pour mettre en avant ces actions auprès des consommateurs. Ensuite, au niveau des transformateurs, on a la même démarche. Dès qu'ils ont des actions... Pareil, réduction d'eau, d'électricité, parce que c'est quand même des industries qui peuvent être très consommatrices, de pouvoir les mettre en avant. Et on leur demande pas seulement d'écrire qu'ils le font, mais on leur demande aussi des justificatifs et des preuves de ces engagements. Donc ça, c'est le premier axe vis-à-vis du consommateur. On est dans la communication. On apporte des garanties de ce qui est annoncé. On fait vraiment du marketing de la preuve. Et sur le second volet, au niveau de l'échange de données avec les distributeurs, l'enjeu, c'est justement de leur permettre de vendre leurs produits au plus proche de chez eux, en local et en régional, pour éviter que le produit ne fasse des milliers de kilomètres pour arriver jusqu'au consommateur, parce qu'en réalité, ils ont souvent un très bon potentiel de déploiement autour de chez eux.
Vous avez lancé en 2022 une plateforme digitale. Comment cette plateforme digitale va-t-elle aider les agriculteurs à finalement appréhender les situations en fonction des régions et en valorisant justement leur travail sur le marché ?
Alors aujourd'hui, il faut savoir que dans cette transition alimentaire, il y a tout un mouvement de création de filières alternatives, circuits courts, vente directe, etc., des propositions logistiques hyper innovantes. Ça représente aujourd'hui que 7% des produits qu'on consomme. Et la problématique qui se pose aujourd'hui, c'est que les agriculteurs sont prêts à diversifier leurs canaux de distribution, mais ils sont confrontés à la problématique de la transformation. C'est-à-dire qu'ils ont de la matière première, mais ils n'ont pas forcément les outils à proximité qui permettent de fabriquer le produit et de le valoriser correctement et de le mettre sur le marché. Et c'est pour ça que notre engagement, il est vraiment auprès de ces transformateurs de proximité qui travaillent vraiment en proximité avec les agriculteurs et qui permettent de valoriser ces matières premières dans des filières qui sont plutôt des intermédiaires. C'est-à-dire qu'il y a 2, 3, 4 intermédiaires maximum.
Et ces solutions informatiques, sont-elles à portée de main, faciles à utiliser pour les agriculteurs ? Est-ce que les agriculteurs aussi sont dans le numérique ? Dans les milieux ruraux, la connexion n'est pas forcément bonne. Est-ce que finalement, il y a une formation ?
Alors, nous, on a justement beaucoup travaillé nos outils pour que ce soit clairement hyper facile d'utilisation. Donc aujourd'hui, pour un agriculteur qui souhaite créer une page de présentation de sa ferme, pour l'outil de traçabilité notamment, ça lui prend une dizaine de minutes et les retours qu'on a eus sont hyper positifs parce qu'ils trouvent ça hyper facile. Mm-hmm. Donc là, on a vraiment fait du au plus simple. Mais bon, la théorie qui dit que les agriculteurs ne sont pas connectés, en fait, je le trouve, est assez fausse, puisqu'en fait, ils font partie des gens les plus connectés avec leurs tracteurs, etc. Ils ont aujourd'hui beaucoup d'outils connectés. Et le deuxième aspect, c'est concernant la plateforme à disposition des transformateurs. Là, c'est pareil, on est en format SaaS, donc software un outil, un logiciel comme As a Services, excusez-moi, j'ai pas le mot en français, qui est donc qui ne nécessite pas d'installation en local, qui est donc accessible à travers le cloud et donc qui ne nécessite pas de compétences informatiques particulières chez nos clients.
Comment vous connectez les producteurs et les consommateurs en termes de traçabilité? Est-ce qu'il y a un retour qui se fait du consommateur directement vers l'agriculteur via cette plateforme?
Alors, aujourd'hui, il n'y a pas de retour direct. Par exemple, quand le consommateur scanne le QR code, il ne donne pas de retour direct parce que pour l'instant, on travaille sur des thématiques GDPR qui sont assez contraignantes, mais ça fait partie évidemment de notre roadmap. En revanche, le producteur a la possibilité dans sa page de présentation d'intégrer son site internet, ses réseaux sociaux, d'indiquer les lieux où le consommateur peut trouver ses produits pour que, évidemment, si le produit a plu au consommateur, il puisse retrouver les produits de cet agriculteur.
Carrion Food est basé dans quelle ville?
Alors nous, on est sur deux villes. Notre siège social est à Dijon, en Bourgogne-Franche-Comté. Et on a un site aussi à Paris, notamment toute l'équipe technique.
Très bien. Vous parlez du marché de l'indépendance alimentaire en France et votre nom est anglais.
Pourquoi? Pas du tout. C'est pas anglais.
Ah d'accord.
C'est du grec ancien, Carrion.
D'accord. Et food.
Alors voilà.
Expliquez-moi les deux mots, Carrion Food.
Ah oui, voilà, c'est ça. Carillon, la racine, c'est du grec ancien, mais food, c'est bien de l'anglais, effectivement.
Pourquoi avoir choisi deux mots qui n'ont rien à voir avec le français?
Alors, justement, pour être international, sans être affilié à une langue.
D'accord.
Ça, c'était le premier. Et ensuite, le sens du mot carillon, c'est en grec ancien le noyau, celui qui génère l'ADN. Et notre ambition, c'est vraiment d'offrir des outils, des technologies innovantes aux industriels et aux agriculteurs pour leur permettre de faire émerger de nouvelles filières plus durables.
Et vous, Claire Guillet, qui êtes-vous? Quel est votre parcours?
Alors, moi, j'ai un parcours un peu atypique pour une fondatrice de start-up puisque j'ai été d'abord directrice financière dans des groupes internationaux sur différents périmètres et essentiellement sur des biens de grande consommation. J'ai énormément analysé des chaînes de valeur et au fil de mon expérience, j'ai eu la conviction que en tant que producteur, et ça quel que soit le secteur, c'est vrai, à partir du moment où on arrête de parler du produit et de ceux qui le font, on ne fait que du volume et du prix. Et donc on casse le produit et on lui donne on casse sa valeur. Et donc appliqué au système alimentaire, en réalité depuis 50 ans, c'est exactement ce qu'on a fait. En voulant permettre une consommation plus de masse, on a complètement réduit la valeur du bien alimentaire. Et aujourd'hui, ce que je voulais, c'était vraiment permettre à l'amont des filières, donc notamment le monde agricole, de parler de ce qu'ils font, de revaloriser en fait leurs engagements et les efforts qu'ils font pour plus de durabilité auprès des distributeurs et des consommateurs. Et c'est de là qu'est née en fait l'idée, la motivation de Carrion Food.
Est-ce que vous êtes issu du milieu agricole? Vous avez des parents dans le domaine?
Alors oui, moi, toute mon histoire familiale est dans le monde agricole. Donc mes parents, eux, n'étaient pas agriculteurs, mais effectivement, j'ai une culture agricole. Moi, mon histoire familiale est dans le monde agricole. Mes parents, par contre, n'étaient pas agriculteurs. Mais voilà, j'ai hérité, en tout cas, de cette valeur du bien alimentaire, de cette culture de la terre, et cet amour de la terre, surtout. Et effectivement, quand j'ai commencé ce projet, j'ai aussi choisi les clients avec qui je voulais travailler, parce que je savais que l'entrepreneuriat, c'est pas forcément une aventure facile et donc je savais qu'il fallait que je sois passionnée pour pouvoir être engagée jusqu'au bout.
Et alors comment allez-vous promouvoir la transparence alimentaire pour les consommateurs?
Déjà en communiquant. La transparence au niveau des consommateurs, on s'appuie sur différents leviers. Donc déjà il y a un levier législatif qui est hyper fort aujourd'hui, notamment issu des Galim. qui oblige de plus en plus les professionnels à être transparents. EGalim, donc ce sont les lois qui sont issues des états généraux de l'alimentation qui se sont tenus en 2017 et en 2018. Et notamment, la loi EGalim impose aujourd'hui aux professionnels des filières des produits carnés d'être totalement transparents sur l'origine des matières premières. Donc aujourd'hui, normalement, par exemple, un restaurant est censé afficher toute l'origine de ses viandes, quelle que soit la viande. Et ce, depuis le 1er mars. Donc là, on a déjà un appui législatif très fort. Ensuite, le deuxième levier, c'est évidemment les distributeurs qui, aujourd'hui, cherchent à relocaliser leur filière et aussi à valoriser leur filière d'approvisionnement. Donc, notamment, on a une étude de marché avec Métro France pour pouvoir comprendre les outils qui pourraient être pertinents pour les restaurateurs pour communiquer au niveau de l'origine de leurs produits. Donc là, les distributeurs sont un levier très important. Et évidemment, la communication, nous faire connaître auprès des consommateurs pour que eux aussi finalement soient demandeurs et imposent aussi leurs attentes en termes de transparence. Et pour ça, on a déjà commencé en fait régulièrement avec Carillon. On crée des focus, ce qu'on appelle des focus consommateurs. Donc on interroge des consommateurs de différentes origines et de différentes tranches d'âge pour comprendre quelles sont les informations qu'ils attendent, celles qui leur manquent aujourd'hui et sous quelle forme ils aimeraient les avoir.
S'il fallait décrire en une phrase cette initiative de connexion entre producteurs et consommateurs, quelle serait cette phrase ?
Notre ambition, c'est vraiment de permettre à des filières durables de se structurer et de se développer pour s'imposer sur le marché.
C'était Claire Guillet, Radio Era Environnement, propos recueillis par Oumi Ahmed Mikidash, une production 2022.